Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick.
Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de la vie en rose.
Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler. Et hey, bonjour Patrick, comment ça va aujourd'hui?
Jim, ça va très bien. Et toi, comment ça va?
Mais je suis très content parce qu'on a avec nous Mandela Gapala, qui est notre contributeur.
Hey Mandela, merci, merci mon cher de nous joindre.
Oh, merci beaucoup, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui.
Et une autre chose qui sera intéressante aujourd'hui, c'est que Patrick se met à l'autre côté du micro. Donc, il est notre invité, ainsi que Mandela, parce qu'on va parler des réfugiés. Et on va parler de cette industrie, pas de cette industrie, mais cette notion de réfugiés et comment on se prend mondialement, et même ici à Kentucky et plus spécifiquement à Louisville. L'immigration est différente, les gens qui viennent en tant qu'immigrés et ceux qui sont réfugiés, c'est une autre histoire qu'on ignore, la plupart du monde ignore vraiment ces réalités. Et donc nous avons deux spécialistes ici, qui font partie, qui travaillent au Kentucky Refugee Ministry, ici à Louisville, Patrick et Mandela. Et donc, on va parler un peu en deux parties. Ça, c'est la première partie de deux épisodes. Le deuxième épisode va être sur leurs expériences ici à Louisville, même en tant qu'agent à Kentucky Refugee Ministry. Mais pour le moment, pour la première partie, on va parler un peu plus de quoi il s'agit, toute cette notion. Et donc, entre vous, vous allez partager la parole. Parlez-nous un peu d'abord de Kentucky Refugee Ministry. C'est quoi? Ça provient de quelle idée, etc.?
Merci, Jim. C'est une opportunité pour nous, Mandela et moi. Moi, je travaille comme case manager à Kentucky Refugee Ministries.
Et aussi, moi, je travaille à Kentucky Refugee Ministries comme job developer, donc j'aide les réfugiés et les immigrés à trouver leur travail.
Alors, avant de parler directement des Kentucky Refugee Ministries, je voudrais juste placer le programme de réfugiés en général. On va parler juste un peu de ça. Qu'est-ce qui s'est fait? Comment est-ce que les gens arrivent à être réinstallés aux États-Unis ou dans d'autres pays développés en tant que réfugiés? Et le tout commence avec, évidemment, une violence ou les gens qui sont discriminés dans leur pays ou lorsqu'il y a une guerre et les gens échappent leur pays et se retrouvent dans un autre pays.
Oui, quand ils se retrouvent dans un autre pays, souvent ils vont se réfugier, donc ils vont demander donc une statut de réfugié à partir de UNHCR, HCR, donc c'est Haut Commissariat pour les réfugiés. Et aussi, quand leur statut est accepté par les Hauts Commissariats pour les réfugiés, il y a ceux qui vont être envoyés au cas de réfugiés. Il y a aussi ceux qui vont habiter donc, peut-être en ville, ceux qui ont les moyens. On les appelle les réfugiés urbains.
Alors, dans ce cadre-là, les personnes qui se retrouvent réfugiées dans un autre pays, c'est-à-dire qu'ils ont traversé une frontière internationale, ils se retrouvent dans un autre pays. Le pays qui les accueille peut soit les absorber, c'est-à-dire le placer dans des centres où à la fin ils vont être citoyens ou quoi que ce soit, ils vont travailler, ils vont intégrer. Mais si un pays n'est pas à mesure d'intégrer effectivement de groupes, alors on les place temporairement dans les camps de réfugiés.
Oui, exactement, c'est ce qui se passe. Et aussi, ils vont rester dans ce cas, dans le cas des réfugiés alors. Puis, il va dépendre de l'HCR. Donc, le HCR va leur donner la nourriture. Chaque fin du mois, il va distribuer la nourriture pour eux. Il va prévenir de l'eau et aussi les soins de santé. C'est-à-dire qu'ils vont dépendre de tout par le HCR.
Alors, pour mettre toutes ces histoires ici en court terme, parce qu'on peut aller, on peut en parler de long en large, et les gens qui sont dans les camps de réfugiés, parmi eux, il y a une petite portion qui obtient une opportunité d'être réinstallée, c'est-à-dire envoyée dans un autre pays, un troisième pays. Alors, c'est pas tous les pays qui ont des camps de réfugiés. Il y a d'autres pays qui ont des réfugiés urbains, comme Mandela venait de le dire. Par exemple, en Afrique du Sud, plutôt que de placer les gens dans les camps de réfugiés, on les place dans les milieux urbains. Et dans ces milieux urbains, certains qui ont une certaine opportunité appliquent pour la réinstallation et ils vont être envoyés dans un autre pays. Mandela, tu vas nous dire c'est quoi un peu la réinstallation?
Oui, la réinstallation, c'est un processus donc, de réfugiés. Lorsqu'ils sont dans ce pays-là, donc, au cas des réfugiés, soit quand ils sont urbains, donc ils sont là temporairement, comme Patrick l'a dit. Donc, s'il n'y a pas moyen pour... Ils sont là temporairement. Donc, il y a une possibilité pour de rentrer dans leur pays si donc, leur pays, donc, la paix revient. Si la paix ne revient pas et que ce pays-là, là où ils sont, et que ce pays ne leur donne pas donc, donc une nationalité ou bien donc la façon dont ils peuvent rester là, ils sont donnés alors l'opportunité de réinstallation. Alors, la façon dont la réinstallation commence, donc ils sélectionnent ces gens-là qui n'ont pas donc... le moyen de rentrer de leur maison et ils ne peuvent pas continuer de vivre dans ce pays pendant toute leur vie. Donc, alors, ils commencent le processus. Donc, le processus commence par les HCR et puis les HCR vont sélectionner ces gens-là. Ils vont faire une petite interview, donc comme une identification familiale, à voir si réellement qu'ils sont dans le camp de réfugiés ou bien qu'ils sont dans leur système, puis envoyer leur nom, leur demande au pays donc, qui participe dans leur installation. Surtout ces pays-là sont les pays de Western, country, le pays de l'Ouest.
Mais il me semble que le HCR, c'est ça comme,
Oui, oui.
Et coordine ça à un niveau mondial, mais est-ce que tous les pays participent aux directives des Nations Unies ou pas forcément? Ou quelles sont les règles qu'on suit à chaque pays?
Pour être bref, la plupart des pays qui sont membres des Nations Unies participent. Mais c'est seulement les pays qui ont de moyens d'absorber des populations dans leur économie, dans leur société, qui donnent cet accès-là. Certains pays de l'Afrique, tels que la Namibie et l'Afrique du Sud, eux aussi, ils ont eu certains moyens d'absorber beaucoup de gens dans leur société. La Tanzanie fait ça rarement, mais la plupart des cas de réfugiés qui sont en Tanzanie sont dans les camps de réfugiés où c'est difficile de les intégrer dans la société. Alors, des gens passent des années, des dizaines d'années dans les camps de réfugiés.
Oui, ça doit être très dur. Et je sais que vous avez eu l'expérience, vous avez vécu une expérience vous-même. Vous venez, vous deux, du Congo, respectivement. Et donc, ça ajoute énormément à votre expertise parce que vous savez, vous avez vécu ça vous-même comme vous avez vos clients et vous travaillez avec les gens qui viennent ici à Louisville. Est-ce que vous pouvez parler un peu brièvement, en général, de vos expériences et d'être réfugié et comment vous tirez de ces expériences pour vous aider maintenant pour votre travail?
Oui, donc nos expériences en tant que réfugiés, donc nous-mêmes, moi personnellement, j'étais réfugié. J'ai vécu au Burundi pendant 10 ans. Alors, quand j'ai été sélectionné pour la réinstallation, j'étais obligé d'aller à travers beaucoup de processus. Premièrement, le HCR a envoyé la demande ici aux États-Unis et puis les États-Unis ont accepté. Alors, quand les États-Unis ont accepté ma demande, alors ils ont envoyé les gens donc de faire les interviews pour vérifier exactement si c'est moi et aussi vraiment ce que le HCR a présenté à eux, donc si c'est fiable. Puis, j'ai passé des interviews. Après les interviews, j'étais obligé donc d'aller à travers donc, les... l'orientation culturelle et aussi on va aller à l'hôpital pour faire beaucoup de tests et aussi on va nous donner donc des immunisations, donc le vaccin contre quelques maladies. Puis c'est un processus qui prend beaucoup donc deux étapes. Ça commence par les interviews. Après les interviews, on va aller sur le background check, donc il faut vérifier exactement si nous n'avons pas commis donc de crime. Puis après cette étape là on va à l'étape des examens médicaux. Après ces examens médicaux, c'est l'orientation culturelle. Et puis, l'OIM, l'Organisation mondiale donc de l'immigration, va donc faciliter donc, la façon donc, de voyager. Donc, oui, c'est ce qui se passe.
Dans ton cas, tu as été accepté par les États-Unis. À ce temps-là, quand tu étais en train de faire les préparatifs, les interviews et choses, Est-ce qu'il y avait des autres gens que tu connaissais qui étaient dans ton, ta même situation, qui allaient vers les autres pays?
Oui, je les connais. Je les connais quand j'étais en processus. Il y a ceux qui sont allés au Canada, en Europe, en Angleterre. Il y a aussi ceux qui sont venus ici aux États-Unis.
Donc, c'est comme une grande négociation, il me semble. Et parfois, ça marche plus rapidement. Parfois, ça peut traîner beaucoup de temps. C'est ça. Yeah. Chaque cas est différent et chaque pays, je crois, et la situation diffère.
Effectivement, chaque pays est différent, donc la situation se diffère et les étapes se diffèrent. Et aussi, vous pouvez être aux mêmes étapes, mais donc si votre situation familiale se diffère, peut-être que si vous vous mariez ou bien s'il y a un enfant qui est né, donc ça peut donc traîner votre donc processus. Donc chaque fois, chaque cas dépend donc.
Et Patrick?
Oh, mon cas, c'était un peu différent parce que moi, j'ai quitté le Congo en 2000 et je suis allé en Afrique du Sud et j'étais un demandeur d'asile dans le processus. Et à partir de ces moments-là, bon, il y avait un petit trouble entre mon oncle et certaines personnes. C'est à ces moments-là que les Nations Unies nous ont placé dans le programme des réinstallations. Alors pour nous, on était dans un milieu urbain, on n'était pas dans un camp de réfugiés, on était installé à Pretoria, et de Pretoria, le UN, les Nations Unies nous ont placé dans le processus pour venir aux États-Unis. Et quand on a été sélectionné, à ce moment-là, maintenant l'expérience devient la même comme celle de Mandela. Il y a des examens, beaucoup d'examens, il y a des vaccinations, il y a des visites intempestives pour voir si vous êtes exactement la personne que vous dites que vous êtes. Et même vers la fin, je me rappelle quand j'ai quitté Johannesburg, il y a une dame américaine qui n'était pas parmi le processus, qui est venue vérifier avec des documents des États-Unis pour voir si j'étais vraiment la personne dont j'étais supposé être. Alors, il y a beaucoup de vérifications. Pour moi, ça a pris plus de 2 ans pour que ça marche. Et c'est comme ça que je suis arrivé aux États-Unis.
Mais tu es un gars éduqué aussi. Donc, pendant ce temps que tu attendais, comme tu dis, par exemple, les 2 ans, là, tu avais accès à quelles ressources là-bas?
Well, la chose est un peu différente pour moi parce que j'étais un demandeur d'asile. Je n'étais pas reconnu comme un réfugié par la nation sud-africaine. Alors, eux, ils ne m'ont pas donné le droit de travail. Alors, je n'avais pas le permis de travail, je ne travaillais pas. Alors, je dépendais des, ça s'appelait Jesuit Refugee GRS Ministry. C'était un service des jésuites, des pères jésuites qui aidaient les réfugiés à partir des Nations Unies. Alors, eux, ils payaient mon loyer et ils me donnaient aussi un peu d'argent pour la ration alimentaire. C'était comme ça que je vivais et je prenais les cours d'anglais parce qu'évidemment, j'apprenais l'anglais là-bas dans un centre méthodiste qui était financé par les Nations Unies. Alors, c'était une vie d'attente. C'était un peu comme l'expérience de Godot, mon cher. On attendait.
Mais au moins, il est venu finalement.
Enfin,
donc, vous travaillez ici à Louisville, vous êtes trouvé ce chemin vers Louisville et vous êtes Kentucky Refugee Ministries, KRM en anglais. Et puis, parlez-nous un petit peu de comment ils ne travaillent pas en isolement, c'est une organisation, je ne sais pas même comment ça se construit ou s'organise. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la connexion de Kentucky Refugee Ministry dans toute cette notion de...
Oui, c'est une organisation donc, qui prévoit beaucoup de services pour les réfugiés et les immigrants. Nous avons une équipe donc, de case workers. Donc, ce sont eux qui vont aller le prendre donc, à travers de l'aéroport, les amener dans leur maison. Puis ils vont leur aider donc à faire donc l'application, donc à demander donc quelques papiers nécessaires ou bien quelques documents nécessaires qu'ils ont besoin. Et aussi, on a une équipe donc de Kesoka qui travaille donc dans un bureau médical et donc qui va les orienter donc à l'hôpital donc quand ils veulent faire donc des check-up ou bien s'ils veulent se faire soigner. et aussi nous avons les avocats. Donc c'est un bureau vraiment qui a une équipe donc qui prévoit beaucoup de services aux réfugiés, aussi l'employment, on prévoit aussi le travail, donc juste dans le but donc de le faire intégrer aussi pour qu'il soit donc pour qu'il soit indépendant.
OK. So aussi ce qui est aussi important de savoir, c'est-à-dire que lorsque les Nations Unies déterminent qu'une personne devra normalement être réinstallée, c'est-à-dire envoyée dans un troisième pays, alors l'Organisation mondiale d'immigration, les Nations Unies et le pays en charge, chaque pays tel que la France, ou l'Angleterre ou le Canada, les États-Unis, se disent on va prendre autant de réfugiés. On va prendre peut-être... selon la détermination présidentielle, chaque pays détermine combien de réfugiés vont prendre. Et à ce moment-là, dans chaque pays, ils ont leur structure. Maintenant, chez nous, ici aux États-Unis, nous avons ce que nous appelons des VOLAG, en anglais Voluntary Agencies. Il y en a 9, si je me rappelle bien. Ils sont à New York et à Washington, D.C. Alors, eux travaillent directement avec les départements d'État. Et ces agences-là ont de quotas. Ils ont des nombres de réfugiés qu'ils vont prendre. Et chacun d'eux va maintenant dispatcher des nombres de réfugiés dans leurs agences spécifiques. Alors nous sommes affiliés à Church World Service. Ça, c'est notre VOLAG. C'est notre agence qui est à New York, qui travaille directement avec le département d'État. Alors, notre agence va nous dire, OK, votre détermination pour cette année, ce sera autant de réfugiés. Alors, c'est cette agence-là qui nous envoie des réfugiés. Dès que les réfugiés sont prêts à venir, évidemment, il y a tout un processus. Nous savons qui va arriver. Nous avons leur bio, nous avons les groupes familiaux, nous avons beaucoup de détails, la langue et tout ce que les gens parlent. Alors, à ces moments-là, lorsque Church World Service nous dit que vous allez recevoir autant de personnes, et chaque mois, il y a maintenant des gens qui sont en train d'arriver régulièrement.
Et donc, le financement vient de l'État. L'État des États-Unis ou ça vient directement de l'Église? C'est l'Église qui reçoit leur argent du département d'État des États-Unis? Ou
c'est le département d'État donne l'argent à l'agence Church World Service.
À chaque vague?
Il y a à chaque vague et on donne ça. Ça, c'est une portion. Il y a aussi une autre portion qui vient de Kentucky Office of Refugees. Il y a l'argent qui vient directement dans le bureau de Kentucky Office of Refugees et eux aussi, ils donnent un peu d'argent. Mais évidemment, il y a une grande partie qui vient directement de la communauté locale ici. Nous avons des églises, nous avons des individus, nous avons des groupes, nous avons des compagnies, des personnes de bonne volonté qui contribuent et qui supportent l'effort de réintégrer les réfugiés dans le milieu.
Donc, vous levez les fonds pendant l'année, il y a des certaines périodes de lever les fonds où vous avez déjà vos connexions ou est-ce que les gens qui se chargent de lèvement de fonds,
oui.
Ça, c'est le boulot chez vous?
Il y a ces gens-là qui se chargent de ça et aussi nous avons un fonds donc en provenance de l'État qui est là. Donc, je pense qu'on envoie les demandes chaque année en fonction des besoins que nous avons. Mais aussi, il y a une personne qui est là, qui est en charge donc, de faire donc, des connexions dans les communautés. Oui.
Et bon, ça, c'est très intéressant. C'est une bonne éducation. On ne veut pas trop compliquer les choses parce que, si on peut visiter les sites web et choses. Est-ce que vous voulez ajouter des sources pour connaître, bien pour le, vous avez mentionné le UNHCR. Ils ont leur propre site web pour connaître un peu de ce niveau. Et donc, dans le cas de Kentucky, par exemple, Kentucky Refugee Ministry, vous avez votre site.
Oui. Avant de parler de ça, parlons rapidement parce que ça, c'était la question, c'est comment est-ce que ça a commencé. Uh-huh. Alors, Kentucky Refugee Ministry a débuté dans les années 90, vers le début, par Donna Craig. C'est elle qui elle a conçu cette idée. Évidemment, en 1980, il y avait l'acte de réfugiés, la loi que les États-Unis ont passée pour un peu corriger les insuffisances de l'acte des réfugiés de 1965. Alors, maintenant, en 90, elle commence avec des presbytériens d'ici de Louisville à organiser, à faire venir les réfugiés. Elle a littéralement commencé cette œuvre dans sa maison. Et sa maison était là où les choses se passaient. Et au fil des temps, le programme a commencé depuis 1990 jusqu'à nos jours. Plus de 15 000 ou peut-être 17 000 réfugiés sont arrivés à travers de ces programmes.
Et donc, c'était une mosaïque avant ça. Et en plus, quand on voit... moi, j'ai plus de 20 ans maintenant ici à Louisville. Et on a constaté un changement énorme de démographique de notre État. Mais surtout ici à Louisville. Et quand on voit le recensement de 2000, 2010, maintenant 2020, et même juste anecdotalement, on voit beaucoup de gens qui viennent de ailleurs. Donc, c'est grâce à cette organisation. Parce qu'avant, j'imaginais que c'était difficile à faire à aller les gens envers un Kentucky ou un Louisville s'il n'y a pas des connexions là-bas. Donc, ils restaient dans les grandes métropoles. J'imagine que l'histoire de New York ou Miami ou LA est un peu différent, et c'est pour ça qu'ils avaient les émigrés et les réfugiés depuis plus longtemps, mais ici c'est plus récent. Mais ça change vraiment la fabrique de notre ville pour le mieux, quoi. C'est pour le meilleur. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre travail et pour votre explication aujourd'hui. Et le prochain épisode, on va parler un peu plus précisément sur vos expériences ici, vos contacts avec les gens. Et comment c'est, comme vous avez nous illustré un peu, une journée typique de quelqu'un qui travaille. Merci beaucoup, les gars.
OK, merci, Jim.
Yeah, merci beaucoup.
OK, ciao.
Ciao.
On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky.
Au revoir les amis et à la prochaine.